Salut à tous, bienvenue, vous écoutez les éclairages numéro 7. Pour m'accompagner ce soir, quatre invités exceptionnels, prestigieux. Le premier, vous le connaissez, parce qu'il revient squatter de temps en temps, donc c'est ZQSD.
Salut.
De quoi tu veux nous parler ce soir?
Bah moi ce soir, je vais vous parler du Visiteur du Futur, parce que j'étais à la projection en avant-première, lundi, au Max Linder. Donc j'en parlerai un peu sans spoiler.
Ah oui, oui, sans spoiler, parce que j'ai pas eu la fin. Et j'ai aussi la fine équipe du bidule, le Bouli et Maud.
Ah, bonsoir.
Oh, c'est la fête.
Salut. Entertainment, nez rouge. Ah merde, mon chat me griffe.
Je mettrai un petit pouet.
Merci.
Alors, de quoi vous allez nous parler?
Alors, moi, je vais vous parler de Graham Masterton.
Inconnu voilà. Au bataillon.
Je voilà, pas c'est un mec qui jouait dans Magnum. Et moi, je vais parler de The Uncanny X-Men. Voilà.
C'est plus grand des grands de ce monde podcastique.
Oh là,
c'est
non, arrête.
L'Arnouf alias c'est... Podcast France.
Bonsoir. Wouh, bravo.
Arrêtez, je suis tout rouge. Merci. Bonsoir à tous.
On verra à la fin pour le chèque.
Bonsoir à tous. Ouais, ouais, pas de problème. Pas de problème.
Bon, bah écoutez.
Tu me demandes pas de quoi je veux parler.
Ah, si, si, si. De quoi tu veux nous parler? Tu vas nous parler de Die Hard 4.
Alors moi je vais parler du Game of Thrones, mais du trône du rap français en fait. Je vais parler de l'histoire du clash entre Lafouine, Prof et Booba.
Ah enfin, ça fait tellement longtemps que j'essaie de savoir pourquoi,
ce qui s'est
comment
passé.
Ça s'est lancé. Ouais.
Bon bah je vais t'éclairer dessus, tu vois.
Cool. Bah je vous propose d'attaquer tout de suite.
Ok.
Et on va commencer avec Maud.
Oui. Donc, je vais vous parler de Graham Masterton. Donc, apparemment, personne ne connaît.
Moi, je connais parce que je t'ai vu faire le dossier. En fait.
Oui,
moi,
mais toi, ça compte pas. Alors, Graham Masterton, c'est un auteur de bouquins qui fait des bouquins d'horreur.
Cool.
Donc, il est né à Édimbourg en 1946. Donc, il n'est pas tout jeune, le monsieur, quand même. C'est l'un des auteurs d'horreur les plus renommés et populaires au monde.
Ah ouais.
Quand
ah,
même. Hein.
Et on ne connaît pas.
J'ai jamais entendu parler. Okay.
Bah voilà. Donc un peu comme Stephen King encore. Voilà.
Ouais.
En moins connu. Il est l'auteur de plus de 35 romans d'horreur, mais il a fait aussi des bouquins policiers de jeunesse et des manuels d'érotisme.
Ah. Ouh, c'est pour
bizarrement.
Salut.
Notamment un qui s'appelle Comment être un amant parfait, un amant parfait, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Il a été rédacteur en chef de Penthouse.
Ah oui.
Et originellement, ouais, éditeur du magazine Mayfair. Magazine pour adultes.
Donc, ouais, il a du background, le mec.
Bonne carrière, le gars.
Ouais. Et ça, je savais pas, en fait, avant de lire sa bio. Donc voilà, donc après ses débuts dans le journalisme, il se tourne vers la littérature fantastique et connaît un succès en 1975, donc avec son tout premier roman qui s'appelle Manitou, qui a été écrit en une seule semaine et qui a été adapté au cinéma avec le film Manitou avec Tony Curtis dans le rôle principal.
Pas du tout.
Film apparemment qui est une grosse daube.
Bon, ouais, ça va. On paie rien à le regarder.
Toutes les adaptations de l'époque, niveau film d'horreur, de toute façon, c'était pas Gen quand même. Donc...
Non. Et donc, depuis 2006, ses livres sont aux éditions Bragelonne. Voilà. Alors, moi, j'ai découvert cet auteur il y a très longtemps, il y a plusieurs années de ça. Il y a une bonne dizaine d'années. Avec une série qu'il a fait, une série de bouquins qui s'appelle la série Jim Rook, qui est fantastique. C'est à la base une trilogie. Maintenant,
Jim
il laisse...
Rook et Rocky. Jim Rook.
Oh là là.
Oui, c'était ma meilleure vanne. Hein. Je pense que celle-ci va durer très très longtemps.
Encore 40 minutes à tenir.
Elle va rester dans les annales.
Voilà, tout à fait. Juste la petite histoire donc de la série Jim Rook. Jim Rook n'est pas seulement un excellent professeur qui parvient à tirer le maximum des classes les plus difficiles, mais aussi quelqu'un qui, ayant frôlé la mort dans son enfance, a le don de voir fantômes et esprits.
Ah, ça c'est cool.
C'est sympa. Voilà.
Ça me fait penser à Dead Zone un petit peu.
Voilà. Donc ça parle donc la trilogie. Donc ça va parler de magie vaudou, magie indienne, magie maya. Et récemment, il a fait, donc c'était plus une trilogie, il en a fait 3 autres, Magie des neiges, Magie des eaux et Magie des flammes.
Magie des neiges, Magie des flammes, Magie du trivial poursuite.
Et j'ai...
Il y a magie aussi.
Ouais. Oh. Magie, magie, vos idées ont du génie.
Avec du cheval dedans.
Mon pauvre peur en même temps, on va te pourrir ton épisode. Je suis désolé.
Moi, ça va. Hein.
Faut pas leur dire ça.
Je coupe au montage, c'est pas. Non, allez-y.
J'ai vraiment accroché avec cet auteur-là. Il a une écriture qui est prenante. Jim Rook est un personnage très attachant. J'ai lu d'autres choses. Il a pas fait que des trilogies. Il a fait, il a une trentaine de romans. Il a une autre trilogie qui s'appelle Les Guerriers de la Nuit que je n'ai pas encore tout lu. Voilà.
Et donc toi, t'en as pas mal déjà là.
J'en ai lu 5 ou 6 de lui, ouais.
Ouais.
Si vous aimez un peu le style Stephen King, c'est dans le même esprit, quoi.
Ouais, c'est vraiment de l'horreur nature, quoi. C'est pas le trip vampire, loup-garou, truc comme ça, quoi.
Non.
D'accord. Bon, non. Ça va.
J'ai pas ouvert un livre depuis le lycée, moi, en fait.
Ah bah bravo.
C'est triste, très triste. Ouais,
c'est grave, hein.
Depuis le collège, c'était son carnet de correspondance.
Pour ses heures de colle.
C'est un peu ça, ouais. Voilà.
Et donc là, en ce moment, je suis en train de lire un de ses bouquins qui s'appelle Le Miroir de Satan.
Satan.
Ouais. Donc voilà. Donc ça parle de. Hein, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Voilà.
Parle de miroir.
Voilà. Et de Satan. Donc je vous invite à aller voir tous les bouquins qu'il a pu écrire. C'est prenant à souhait, quoi.
Mais c'est vrai que okay. son nom me parle, moi, à l'origine. Graham Masterton, ça me disait quelque chose sans connaître le personnage. Donc...
Bah, il est pas très connu, malgré tout ce qu'il a pu faire. C'est bizarre, non? Il est plus connu en étant chef rédacteur de
Penthouse.
C'est étonnant.
C'est bizarre.
Mais dans ses bouquins, à part celui que tu as cité, il n'y a pas eu d'autres qui sont passés au cinéma ou en série ou...
Non. Non, ah ben, il n'y a que Manitou, en fait, son premier bouquin qui a été adapté.
Ah ben, bah, écoute, si tu devais en conseiller quelques-uns, absolument.
Absolument, c'est vraiment les trois, magie indienne, magie vaudou et magie maya. C'est une tuerie.
C'est quoi l'histoire, rapidement, si tu peux...
Je vais te spoiler. Dire. Alors, sans trop spoiler... Attends. Alors, magie vaudou, un don perturbant dont il répugne à se servir, mais lorsqu'un de ses élèves, TJ, accusé de meurtre, clame son innocence, Jim n'a plus le choix, d'autant qu'il est sûr d'avoir vu l'oncle de celui-ci sur les lieux du crime. Ce personnage inquiétant dispose d'un alibi en béton, mais l'on murmure aussi que, adepte du vaudou, l'oncle de TJ maîtrise parfaitement la technique, consistant à quitter son corps et s'en sert pour aller commettre les pires méfaits.
Comme dans X-Files.
Tu fais voilà, du voyage astral.
Ouais. Voilà, ça c'est le premier. Donc voilà, après dans le deuxième, donc magie indienne et tout ça, tu retrouves les mêmes personnages, le voilà.
Oh, ok.
C'est trop sympa,
bien.
Ouais.
C'est trop trop bien, oui.
Bah écoute, si t'as les liens, je les mettrai sur le billet, parce que moi je pense que je lirai.
Ouais. Je filtre ça, tout ça.
Bah merci.
Rien d'autre à ajouter en particulier sur l'auteur?
Non.
Non.
D'accord. Non.
C'était le cas.
À réfléchir à ça. Tilalou. Non.
Non, juste que j'espère qu'il va sortir des nouveaux bouquins et voilà, c'est tout.
Ouais bah, écoute.
Voilà. Et je trouve ça dommage comme vous disiez qu'il n'est pas sorti, que ça n'a pas été adapté au cinéma comme peut l'être Stephen King, qu'il est adapté dans tous les dans tous les sens quoi.
Bah ouais, après ça dépend aussi parce que. Oui, vas-y.
Non, je disais, c'est peut-être pas plus mal parce que des fois, enfin, c'est souvent, tu sais, que quand il y a des romans qui sont adaptés, il y a beaucoup de gens qui sont déçus.
En général, t'es déçu. C'est clair.
Ouais, voilà. Je pense au Langolier, par exemple, de Stephen King, qui est une purge immonde.
Ah, il y en a pas mal des Stephen King qui ont chié quand même.
Avec le chien aussi, je sais plus lequel. Ouais. Bon, bah, soit. Voilà. Très bien. On passe à la suite. Avec cette fois-ci Mister Larnouf qui va nous parler.
HIP, HOP. Salut mes frères et mes sœurs, quelle joie et quel honneur. Bon alors ouais, je vais vous parler de l'historique de l'embrouille entre Rof, Booba et par la suite la fouine. Oh j'ai un vieil écho là, non?
Ouais.
Ah, c'est bon. Donc tout a commencé en fait en 2001, donc vous voyez que c'est pas tout jeune. Où en fait Rimka du 113, Tonton du Bled, tout ça, je sais pas si vous connaissez, où il avait invité Rof et... Oui. Non, Tonton du Bled quand même.
Ah non. Même 113 en général.
Je te sens très bien, je connais le nom, mais...
Je voulais aller au bled de mon père, dit, les là. Ça te dérange, ça? Waouh, waouh, waouh. Bon, Bah t'es jeune alors. Bon bref.
Ah oui.
Donc en 2001, Rimka invite Booba et Rof pour un featuring, donc un morceau tous les trois, qui devait s'appeler C'est nous la rue. Suite à une embrouille de label, en fait, le morceau est jamais sorti. Et donc là, ça a commencé déjà les quelques tensions, parce que Rof, en fait, reprochait à Booba qu'il avait pas mis du sien pour convaincre son label de laisser le morceau sortir. Là, ça a commencé. Et donc, au fur et à mesure de leur carrière, tous les deux, bah, ils s'envoyaient des pics sans jamais vraiment se nommer, tu vois. Ils faisaient des petites allusions, mais on savait jamais si c'était destiné à Booba ou à Rof sur leurs albums respectifs. Donc, on arrive en 2013. Où donc il y a Booba qui commençait à communiquer un petit peu sur la sortie de son album qui s'appelle Futur. Rof, lui, était un petit peu sur la pente descendante et il participait à une émission où son petit frère, membre du groupe, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai un trou.
Allez.
Bref, il y a son frère qui a un groupe aussi et qui donc il avait invité Rof sur le plateau de Skyrock pour un Planet Rap. Et là, Rof s'en prend à l'animateur pour je ne sais plus quelle raison et il dit ouais attention, fais gaffe, moi je suis pas l'autre zoulette de Booba, je serai sérieux. Hop, donc Booba il entend ça.
Premier clash.
Voilà,
enfin,
voilà. Là le nom était sorti et ça, enfin les choses étaient basées quoi. Et donc juste après, il y a Booba qui sort un single extrait de son nouvel album, donc qui s'appelle Wesh Moré. Donc Wesh Moré, ça veut dire quoi de neuf, mec quoi, en fait en manouche. Et donc dedans, bah il insulte un petit peu la concurrence du rap français. Là, Rof, il le prend directement pour lui. Et donc il fait un commentaire sur Facebook et tout, il fait ouais encore des rimes à la con, nanana, de toute façon t'es bon à rien, je vais te le démontrer tout ça. Et il dit t'es mort. Et donc, deux jours après, il y a Rof.
Pas dans la demi-mesure.
Ah non, non, non.
Beaucoup d'amour. Hein.
Ah, mais c'est violent. Hein. Donc, deux, trois jours après Wesh Moré, il y a donc Rof qui sort le morceau Wesh Zoulette, avec la même insulte et tout. Et donc là, il s'en prend bah, clairement à Booba. Donc, il l'insulte. Enfin, voilà. C'est vraiment un morceau cash où il passe son temps à le descendre. Alors que dans Wesh Moré, en fait, Booba ne cite personne. Hein. C'est juste Rof qui l'a pris pour lui. Donc pour l'instant on en reste là et donc il y a la Fouine qui prépare aussi la sortie de son album Rôle de Parcours qui vient de sortir là et donc il sort un titre avec tout le rap, enfin, les anciens du rap français, s'appelle Panam Boss et dedans il y a une phase qui où la Fouine dit j'entends un clash partout sur toi sur les ondes mais comme un appel à la mosquée tu peux pas répondre. Alors là, cette fois, c'est Booba qui se vexe et qui prend pour lui. Il pensait qu'il parlait du clash de Rof sur Wesh Zoulette.
Il se vexe facilement hein, dans ce milieu, j'ai l'impression. Ouais.
Et donc, bah là, c'en est trop. Hein. Ah oui, entre-temps, il y a aussi la... Non. Attends, c'est au niveau de la chronologie, je sais plus comment c'est passé. Dans le même temps, donc ils sont embrouillés sur Twitter, les réseaux sociaux, tout ça, donc Booba et la Fouine. Et un jour sur YouTube, il y a une bonne vieille vidéo qui dure un quart d'heure où la Fouine se lâche, mais littéralement sur Booba, quoi. Il lui chie dessus carrément. Et donc il explique toute sa carrière, il la démonte. Enfin bon, bref. Et là, ça y est, bah c'était la guerre. Ah, donc Booba il dit bon ça suffit les conneries, je vais vraiment prendre à vous et là je vais vous nommer et aller déguster. Donc là il y a Booba qui sort le morceau Assez Milan où donc bah il règle ses comptes avec Booba, avec Rof, avec la Fouine, Rof et son petit frère Iqbal. Donc voilà. Ensuite donc Rof lui reste muet. La Fouine répond avec Autopsie 5 où il s'en prend avec il s'en prend à Booba directement. Bon, je vous épargne, les morceaux sont pas intéressants de toute façon, hein, c'est vraiment que des insultes, des petites punchlines à 2 francs. Donc La Fouine sort Autopsie 5, Booba répond avec un autre morceau qui s'appelle TLT pour tuer les tous, où là il dit carrément qu'il va tous les fumer quoi. Et tout ça, c'est là à ce moment-là, on pensait tous à un coup marketing en fait, parce que l'album de Booba venait de sortir. L'album de Rof est en préparation et va sortir, et l'album de La Fouine était vraiment sur le point de sortir.
Comme par hasard, tous en même temps.
Voilà, donc là, à ce moment-là, on se dit ouais, c'est des mythos, ils font ça pour faire monter les buzz et pour augmenter les ventes de disques. Enfin, c'est eux qui vendent, on va dire, le plus de disques en France, quoi. Donc, Booba sort TLT. Et ça en reste là. Après, bon, bah, Yarov, il a dit ouais, de toute façon, bah, je vais répondre bientôt, mais le morceau sera sur mon album et tout ça. Ok, donc on en reste là. Et donc là, c'était la semaine dernière, Booba tweet un texte, il dit ouais, Booba versus Lafouine et Dixon, dit que c'est un pote à Lafouine, bientôt en vidéo. Là on se dit oh non, c'est pas possible.
Ils en remettent une couche quoi.
Ouais ouais, mais là c'était donc une vidéo, donc ça parlait de, ouais, de bagarre quoi. Et effectivement bah,
ah,
la bagarre,
oui, j'ai vu ça.
Ouais, effectivement le lendemain Booba lance la vidéo sur les réseaux sociaux où tu le vois, il est dans une salle,
en
salle de sport en train de pousser la fonte,
ah,
et bah, tout. Et on le voit un petit peu au loin qui s'arrête avec un mec et tout, et là on ça commence à courir et tout. Donc tu le vois qu'il l'attrape,
c'est ridicule.
Il en défonce un. Hein. Et après ça vient sur une caméra extérieure où tu le vois, il sort de la salle de muscu, il s'approche d'une bagnole et là c'est le meilleur moment. Parce que bon, moi dans l'histoire j'ai mon clan, hein. Je suis plutôt du côté Booba en fait.
Ah, on n'a pas compris que t'avais un parti.
Je suis plus du côté Booba. Et donc on voit Booba bah, qui attrape la fouine et t'as la fouine qui rampe à genoux devant Booba. Après il y a l'autre qui vient, enfin bon, il se court après. Et voilà donc toute la genèse de l'embrouille. Et donc c'est toujours pas fini parce qu'il y a donc il y a Rof qui prépare aussi une réponse. Jusqu'où ça va aller quoi? Est-ce que ça va finir Notorious Big et Tupac?
Ouais, ça craint. Hein.
C'est... Ouais, j'imagine que c'est aussi une guerre de tranchées parce qu'il y a les fans qui doivent s'y mettre aussi. Ils doivent chacun aller leur petite vidéo.
Sur les réseaux sociaux, tu vois, moi j'ai deux parties quoi. J'ai la un petit peu podcast geek et l'autre partie plus hip hop. Et sur la partie hip hop, mais ça arrête pas quoi.
C'est pas ouais.
Ah mais c'est un truc de fou hein, c'est t'arrivais même pas à suivre tous les tweets, c'est ça défilait quoi.
Mais par contre tu vas voir les commentaires en dessous de la vidéo YouTube du truc et tout ça, franchement tu tapes des barres tellement il y en a, ils sont trop impliqués dans
ah
le
ben
truc, quoi.
Moi je plaide coupable, j'en ai mis un moi.
Ouais mais toi tu sais écrire français.
Oui oui. Moi j'ai taquiné la fouine, j'ai fait ouais bouffon, même à 2 sur 1 tu finis à 4 pattes, enfin bon un truc comme ça quoi.
facile.
Oh les révélations.
Ah je suis un petit peu fan de Booba, ouais, j'avoue. Non mais bon le mec il a une carrière incomparable encore off, voilà, il a une carrière derrière lui, c'est quelqu'un qui est respecté dans sa carrière. Fouine non.
Mais la fouine n'est pas respectable, hein, du tout.
Non.
Pour moi, parce qu'il a fait un concert, là.
Ah oui, il y avait cette histoire dans un concert.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Bah, il s'était fait balancer une bouteille d'eau sur la tête et il a arrêté le concert. Il a dit c'est lui le mec en bleu. Ils l'ont tous défoncé derrière la scène.
Ouais,
et il y a la vidéo de ça.
Ouais, je l'ai vu la vidéo. Ouais c'est clair.
Puis il n'y a pas que ça. Il a fait un truc encore plus
grave.
Ouais,
c'est un pointeur.
Il a fait un. Ouais, il a fait un duo avec Patrick Bruel.
C'est vrai.
C'est vrai.
Bah oui, c'est vrai. J'ai pas voulu rentrer là-dedans, mais justement, quand tu regardes les commentaires, il y a des théories du complot là-dessus aussi. Laisse tomber, quoi.
C'est dingue.
C'est énorme. Non, mais ouais, c'était marrant, quoi. Cette histoire au début, ben, on pensait que c'était marketing, mais finalement, ça l'est peut-être pas. Mais bon, c'est un peu triste pour le rap quand même, quand on aime ça. Mais bon, moi, la vidéo de la bagarre m'a fait bien marrer quand même. Que faut le voir, la fouinage devant en train de ramper, quoi. C'est bien marrant.
Ce qui serait triste, c'est que ça devienne une bagarre entre fans, quoi. Ça serait vraiment pas cool.
Ah bah c'est déjà le cas hein.
Ah ouais.
Bah ça l'est déjà.
Avec les points quoi, pas juste sur internet.
D'ailleurs tu vois il y a Booba qui vient en concert à Clermont le 19 avril là et bon j'hésite encore à prendre ma place. Il faut que je trouve des potes pour y aller parce que bon je vais trouver mais ça risque de peut-être y avoir des échauffourées ouais, à cause de ces conneries quoi.
C'est triste.
Ouais,
wesh,
chance, hein.
Wesh Matt regarde l'Arnouf, il est archi teuf. Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trop bouffé quoi. Bah ben non, il a mis des oreillers en dessous pour se protéger.
Alors moi, j'ai posé la question du profane parce que j'y connais rien, mais bon, faut la poser, mais je me doute que c'est pas ça. Pensez pas que c'est un coup de pub quand même entre les deux pour vendre des albums?
Bah vu bon, la bagarre, il y a pas eu vraiment de gros portées, mais. Et, ouais, je pense pas. Hein. Là ça a été trop loin. Pour...
Ouais, c'est
ouais,
trop
voilà,
sérieux
je pense
pour. Ouais.
Je pense qu'il a trop d'ego, la fouine, pour se mettre à quatre pattes, même pour un coup.
Voilà, ouais, je pense aussi. Ouais.
Surtout.
Non, parce que. Mais ta question, elle est pas bête, parce que la fouine, il avait déjà fait le coup avec Sniper, où ils avaient fait un semblant de clash comme ça sur les réseaux sociaux. Et au final, il a fait, ouais, je vais le clasher dans un morceau. Puis quand tu. Enfin, il avait teasé un petit peu là-dessus. Puis en fait, quand t'écoutes la chanson, c'est un duo, en fait, avec le groupe Sniper. Donc tout le monde était rentré dans le. Dans le clash aussi, puis en fait ils ont pris leurs auditeurs pour des cons quoi.
Okay,
mais là c'est pas le cas sur ce coup-là, je sais pas.
Non, ouais, ça va trop loin pour que ce soit simple.
Ouais, espérons que ça s'arrête là quand même parce que bon.
Oh, c'est dingue.
Ouais.
C'est un peu la base coup en fait le rap français.
Ouais, mais
enfin, j'imagine que aux États-Unis ça doit être la même
oui,
chose.
Oui, parce qu'il y a en fait une compétition, tu vois, ils cherchent le meilleur lyriciste comme on dit. Et c'est vrai que Rof et Booba ils sont assez pointus dans leur domaine, pardon. Et bah c'est ouais, ils cherchent à avoir le trône du rap français quoi, voilà. Même si pour l'instant, c'est plus Section d'Assaut qui vend le plus de disques. Dommage.
Ouais.
Bah oui. C'est pas... En général, c'est pas les plus talentueux qui mm-hmm. gagnent beaucoup.
Non, non.
Donc voilà, j'espère que je vous aurai éclairé un petit peu sur un truc qui sert à rien, mais bon, c'était marrant.
Non, mais tu vois, j'ai enfin compris, tu vois.
Ouais, c'est pareil. Bon.
Ouais. C'est, j'y comprenais rien, moi, je savais pas. Déjà, entre Lafouine et Booba, je connaissais aucun de leurs morceaux.
Booba a quand même dit « Je trempe mon pénis dans l'eau bénie », je suis désolé. Mm.
Ah, si,
ah, mais,
si
voilà.
Ça, ouais. Mais si t'écoutes les morceaux de Bay,
ouais.
Il y a, en fait, tous ces textes, en fait, comment dire, quand t'es à la première écoute, t'as l'impression qu'il fait que c'est que des insultes. Mais quand, enfin, faut plusieurs écoutes, et en fait, c'est le roi de la métaphore. Et en fait, derrière toutes ces métaphores, il y a quand même des messages, tu vois. La première écoute, t'as l'impression que c'est un abruti qui raconte que des conneries, mais non, il y a quand même des messages derrière.
Je suis assez d'accord avec toi.
J'ai pas assez écouté, alors, dans ce cas-là.
Et d'ailleurs, il a été, je sais plus, j'avais vu ça dans une vidéo, un reportage sur Booba justement, où il avait été, comment dire, il y a un groupe d'écrivains en fait qui avait dit que Booba était un super écrivain quoi. C'était le roi de la métaphore justement.
Ouais, ouais,
il mais... comparait à des grands artistes littéraires.
Moi, je sais que j'avais vu une interview ou vidéo de lui. Et il n'avait pas l'air bête dans certains trucs qu'il disait, donc je pense
qu'il
ne doit pas être bête.
Faut pas s'arrêter à l'image qu'il dégage, quoi. Il y a des textes derrière. Bon, ici, c'est un petit peu... Enfin, le niveau a un petit peu baissé sur ses derniers albums, mais ça reste quand même... Là, Futur, moi, il y a des morceaux que j'écoute dans ma caisse.
Mais en fait, je crois que c'est un mec qui est vachement au premier degré, et tout ce qui est journaliste qui vient lui poser des questions de merde, bah, tu le vois carrément que ça le fait chier, et ça lui prend trop la tête, mais c'est quand même un mec qui a l'air d'être très très intelligent, contrairement à ce que puissent penser les gens. Moi, je suis convaincu aussi que c'est un mec qui est très très intelligent et qui...
Bah,
il est obligé de faire la promo comme tout le monde, quoi.
Il a fait ses études aux États-Unis. Non, il est loin d'être bête, et il aurait pas eu cette carrière enfin il a fait des choix de carrière et il a bien su mener sa barre, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a plein de jaloux derrière.
Et pour terminer, un album de Booba, si tu devais le conseiller, le meilleur pour toi?
Eh ben, ça serait un album de Booba, ça serait Putnatic, son premier groupe avec Ali,
ah ouais,
Mauvais Oeil.
Putain.
Et okay. Là, c'est que des classiques du premier à la fin, quoi. Sinon, Temps Mort, son premier album solo, et Panthéon. Après, ça a baissé en qualité, je trouve. Donc, c'est deux solos et Lunatic, le premier album.
Bah écoute, j'écouterai. Très bien, messieurs et mesdames.
Merci
et
de ne pas m'oublier.
Et on va passer à la suite avec ZQSD qui va nous parler du Visiteur du Futur.
Et ouais. Donc, comme je vous avais dit, j'étais à la projection donc lundi, donc ce qui m'a vraiment donné envie de parler de cette série. Donc, c'est une série française, pour ceux qui ne savent pas.
Alors, déjà, comment était le buffet?
Il n'y avait pas de buffet, il n'y avait rien. C'était au Max Linder. C'était donc bon,
ça va quand même.
Ça va, j'avais des bonnes places en mezzanine à côté de No Life et d'Alex Pilote, donc c'était très sympa.
Ah ouais.
Ouais, c'était vraiment une super ambiance, il y avait beaucoup de monde. Je crois qu'il y avait Poupe, il y avait Nefael apparemment, de ce que j'ai entendu, qui est pressé.
Ouais, t'aurais dû la reconnaître, elle devait avoir les nichons à l'air.
J'ai pas osé le dire.
Donc voilà, donc c'est une série une web-série française créée, écrite, réalisée par François Descraques. Donc pour l'instant, il y a 3 saisons. Donc là, on vient de finir la 3e saison lundi.
Elle est finie, là,
ouais,
la 3e saison.
Il y a 10 épisodes.
Ok, ouais.
Donc pour résumer l'histoire, ça raconte la vie de Raph, donc le frère de François, qui est un jeune de 21 ans, qui cherche un peu un taf, qui est un peu normal, qui rencontre un homme qui vient du futur, qui apparaît d'un coup devant lui dans un parc et qui lui dit plein de trucs. Non, ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Donc ça résume un peu l'histoire au début. Donc si on veut parler un peu des personnages principaux, bah il y a le visiteur qui est joué par Florent Dorin, il y a Raphaël, donc Raphaël Descraques, qui est frère de François, le réalisateur. Il y a la très 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 belle Judith, jouée par Justine Le Potier.
Ah, t'es amoureux.
Elle est magnifique, non mais vraiment, à chaque fois que je l'ai vue...
C'est la rookie, non?
Ouais.
Oui, ouais. Exact.
J'avais parlé à un concert des Rois de la Suède, elle est vraiment mais magnifique. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça. Et il y a Mathéo, donc le pote de... Enfin, l'agent de sécurité, enfin pas le garde du corps de Judith, qui est joué par Mathieu Poggi, et le docteur Castafold, joué par Slimane, Baptiste, Béron.
Le meilleur. Docteur Castafold.
Ah, pour moi, c'est pas le meilleur, pour moi, c'est le visiteur.
What the fuck, ma moustache?
Le visiteur, vraiment, j'aime beaucoup. J'avais vu un spectacle de lui, j'aime beaucoup. Et après, donc, il y a ça, c'est du côté des gens antis. Et après, les méchants. Il y a la police du temps, le double du visiteur, les Lombardiens. Enfin, ça, c'est dans l'histoire et je vous laisserai découvrir.
Ça sont les saisons aussi.
Voilà. Donc, dans la saison 1, c'est commencé en 2009. Ça a été diffusé sur Dailymotion et puis sur No Life. Ça dure 22 épisodes. Ça a été vachement bizarre parce que ça commence dans des sketchs de 2 minutes 16. Ça finit par des épisodes écrits de 10 minutes qui commencent à avoir une histoire. Donc, au fur et à mesure, il y a une histoire qui s'est faite.
Parce qu'au début, y a pas l'univers est pas là.
Non, au début, il n'y a vraiment pas d'univers. Il y a l'idée générale, mais voilà. Mais on sent quand même qu'il y a un désir de faire de la science-fiction avec pas beaucoup de moyens, mais on essaye de faire ce qu'on peut. Et ça se ressent et c'était vraiment agréable. Déjà, une série de science-fiction française, bon, entre nous, on n'en voit pas tous les jours.
Bah, non, c'est quand même. Voilà, réfléchissant.
Ouais. À part HeroCorp, peut-être. Non, même pas.
Oh, si,
ils ont des super pouvoirs. Si, ouais. Si.
Et justement, Simon Astier qui est dans la troisième saison. Enfin, bah, j'en parlerai après. Après, donc, on a eu la saison 2, donc, qui a été vachement attendue parce qu'ils ont beaucoup teasé dessus. Ils ont fait de la Japan Expo.
Excellente.
Ils ont fait pas mal de choses là-dessus. Donc, tout le monde attendait. On savait qu'il y avait à avoir une plus grosse production. Enfin, pas une production, mais un plus grand investissement de la part de Décrac. Donc, il y a une équipe qui s'est formée. Il y a eu des nouveaux acteurs. Il y a eu plein d'autres choses autour. Au niveau de la réalisation, ça s'est vraiment amélioré. Il y a eu des bons éclairages. Donc, vraiment, on sortait presque du format web. On arrivait sur des épisodes de 28 minutes, des choses comme ça. C'était vraiment plus une série à part entière plutôt qu'une petite web-série, des petits épisodes faits à la va-vite. Donc quand l'annonce de la saison 3 est arrivée, donc c'est 2012-2013, c'était vraiment la folie parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de gens qui ont commencé à suivre. C'est devenu plutôt connu, même voire très connu. Et tout ça parce que ça a été produit. Il a enfin arrivé à avoir un vrai producteur, donc c'était Ankama et France Télévisions Nouvelles Écritures. Donc grâce à ça, il a pu déjà payer, comme il nous expliquait à la projection, donc payer ses acteurs. Parce que ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il voulait, parce qu'au bout de 2 saisons, c'est quand même des heures et des heures de travail, et pas pouvoir payer son équipe, c'est vrai que c'était difficile pour lui. Donc là, on a 10 épisodes de 13 minutes, donc on a vraiment changé le format. On a gagné 7 minutes à peu près par épisode. Donc bon, vraiment au niveau de la réalisation, c'est totalement différent. Il y a des super plans, enfin, il y a une baston avec Judith, il y a des plans, mais je trouve qu'ils sont magnifiques. Les éclairages, tu sais, il y a vraiment un super travail.
Ouais.
Parce que tourner dans les caves de No Life et dans Kama, c'est pas si simple que ça, je pense, niveau éclairage. Donc, on a eu la participation de Simon Astier. Donc, il expliquait qu'il était très très content de l'avoir eu sur la saison. Donc, il a eu quand même un rôle assez présent. Et de Yacine, ouais, le mec du Jamel Comedy Club.
Il fait un bon personnage bien con. Hein.
Juste avant, tout le monde a vu la série ici ou pas?
On n'a pas fini la saison. Non,
tu n'as pas vu?
J'ai vu que le premier épisode en fait.
Ah bah regarde.
Bah, comme c'est des épisodes courts, si tu peux regarder la suite, franchement,
ouais, mais
ça vaut le coup.
Pas la... enfin, j'en ai entendu parler dans pas mal de trucs et ouais. Ça fait envie. C'est juste que pour l'instant, je manque un peu de temps, mais c'est prévu, ouais.
Ah, mais ouais.
Surtout que j'ai vu, en zappant justement sur YouTube, j'ai vu quelques épisodes de la saison 2 ou 3, je sais plus, et c'est carrément au niveau image.
Ah, c'est excellent.
Ça a l'air... sens le boulot.
Ouais, franchement. Enfin, je vais laisser finir ZQSD, mais je veux dire un truc.
Alors, donc, Décrac a vachement insisté sur quelque chose, c'est qu'il voulait garder un côté cheap vraiment à la série. Il voulait pas que ça devienne une super production avec de la 3D partout, n'importe comment. Et ça, j'ai trouvé que c'était une initiative vraiment extraordinaire parce que quand t'as quand même des moyens, quand t'as des personnes qui sont là, des graphistes, des mecs qui font de la 3D, c'est très tentant de vouloir faire un truc très science-fiction. Mais il est resté vraiment dans l'idée et dans ce qu'il voulait faire. Il y a eu des blagues méta, il y a eu des choses comme ça qui ont été faites en plus. Donc voilà, ça c'est la saison 3, qui était vraiment, pour moi, vraiment excellente. Donc maintenant, je vais parler un petit peu de la projection. Donc c'était lundi, comme j'ai dit, ils ont eu du retard, donc on a attendu dehors sous la pluie, je tiens à le préciser, parce qu'il y avait No Life qui faisait des plans dehors, donc à mon avis ça a un peu retardé, et il y avait Simon Astier qui était à l'intérieur en train de tweeter, donc il y a tout Twitter qui disait « Ah ça commence », et nous dehors qui disons « Ah bah non
». Ouais, c'était marrant. Enfin,
bah vu de, Twitter, dehors avec la pluie, c'était pas drôle. Donc voilà. Ouais, on a vu donc en exclusivité les deux derniers épisodes, qui sont extraordinaires, vraiment, je vais pas spoiler, mais c'est une grosse claque. Vraiment, il y a plein de choses qu'on s'attend pas, bah, comme tout dernier épisode des séries des cracks, souvent. Il a eu le droit à une... Oui.
Mais c'est... Il y aura pas de saison 4, c'est vraiment...
Justement,
fini,
il en a parlé, pour l'instant, il nous a dit qu'il venait de finir ça. C'était lundi la projection, il a fini vendredi le montage. Donc il a dit qu'il se faisait une pause. D'accord. Déjà et qu'il verra en fonction de ce que propose Ankama et tout ça. Il exclut pas, mais c'est pas écrit.
D'accord. Voilà, ok, d'accord.
Il y a eu une standing ovation de la salle pendant au moins 5 minutes avec des cracks qui disaient « Arrêtez, arrêtez !» Parce qu'il est très humble, il se la pète pas du tout. Il est vraiment
Ah, surtout qu'il a, il a acquis une sacrée notoriété hein, en 2 ans. Parce qu'il a
ouais, fait c'est clair. Show,
il a fait les opérateurs.
Les opérateurs
aussi,
qui étaient très bons d'ailleurs, je trouve. Enfin, j'ai adoré.
Et Golden Moustache, il a un rapport avec ou pas?
Non.
Ou c'est juste... pas du tout. Parce qu'il y a souvent son frère qui est dedans.
Il est pote avec eux en fait. Parce qu'il est pote donc, avec Raph et avec les autres mecs en fait. C'est vraiment
d'accord,
des potes.
Okay.
Bah, d'ailleurs, il y en a qui sont dans, la... dans le visiteur. Enfin, ils sont un peu partout de toute façon.
Ouais.
C'est le petit
ouais,
monde voilà. des youtubeurs, tout ça.
Ouais, parce qu'il y a même la Rookin, justement, celle que tu disais, ouais. est dedans.
Bah, elle est aussi dans la saison okay. 3 d'Herocorp. Ouais.
D'accord. Bah,
bah elle est pas,
pas,
bah, elle est pas sur saison 3. Donc, on a eu le droit à des questions-réponses ultra spécifiques sur le travail de Descrac. Des trucs, mais des questions, on se demande encore comment ils ont trouvé la question. Genre, est-ce que cette référence-là, c'était comme il y a 10 ans, quand tu faisais des cours aux États-Unis avec... Et là, t'écoutais ça et tu disais, mais les mecs, ils connaissent toute sa vie par cœur. Mais même lui était vraiment sur le cul. On a eu des petits...
Ah bah maintenant, il a ses fanboys. Hein.
Ouais, mais c'est pire que des fanboys. Des personnes qui sont là qui lui disent, ouais, c'est comme les blagues que tu faisais à tes étudiants aux États-Unis, mais waouh, enfin, c'était vachement impressionnant.
Ouais,
oui,
ça,
vraiment.
Ça va loin, quoi.
Donc après, on a eu des petites questions sur HeroCorp, parce que Simon Astier était présent. D'ailleurs, il sait pas se tenir debout, c'est super drôle. Il est tout du tout comme... Ah, c'est très très drôle. Il arrive pas à se tenir.
C'est un marshmallow.
Donc voilà, bah en conclusion, donc c'est une série que j'adore, je pense que vous l'aviez entendu, que je suis depuis l'épisode 15 de la saison 1, je crois, donc depuis 2009.
Petit joueur.
Eh ouais, mais au moins je le suis, et j'étais à la projection, voilà. Donc voilà, c'est... J'aime énormément, autant pour l'histoire, parce que c'est une histoire qui me plaît fortement, mais aussi pour la réalisation. J'aime vraiment, vraiment, vraiment comment Descrac réalise. Je pense qu'il a vraiment un talent qu'il faudrait qu'il développe beaucoup plus que ça, même faire du long métrage ou des choses comme ça. Oui, c'est
bah,
sûr.
Il va y venir.
De toute façon, il est passionné, donc ouais. Un passionné, il fera ce qu'il peut le faire.
Ouais.
Donc voilà.
Ça va être le Kassovitz des années 2010.
Donc voilà, et j'ai aussi rencontré sa communauté de fans, qui est juste super sympa. Donc voilà, en conclusion, si vous avez l'occasion de regarder, regardez, et même d'aller à des projections, ils le font souvent à la Japan Expo. Donc le coffret DVD sera à la Japan Expo d'ailleurs, pour les infos exclusives un peu. Donc voilà, c'est quelque chose que je conseille, mais super wow. fortement, surtout si vous aimez bien la réalisation et tout ça. Il y a pas mal de lumière bleue à la Spielberg aussi, j'ai remarqué. Il apprécie,
ouais, ouais,
je pense.
Ouais. Et puis le flair effect aussi.
Donc voilà.
Mais ça fait plaisir, tu vois, un réalisateur français qui fasse ça, parce qu'il y a un truc... que j'arrive pas à comprendre et qu'il faut qu'on m'explique. Par exemple, tu prends les séries anglaises. Tu vas pas me dire qu'ils ont plus de budget que les séries françaises. Ça doit se valoir.
C'est différent,
quand même, je pense.
Tout, le budget hein, ouais. est différent.
Bon, par exemple, oui. Misfits. Il y a pas, il ouais. y a pas d'effet spéciaux terrible. Ça se passe dans un décor. C'est une ville. Il y a, tu vois jamais un figurant. C'est tout le temps des herbes. Donc bon, je pense pas que ça doit leur coûter des masses de thunes. Pourquoi en France on n'arrive pas à avoir
Parce
des
qu'il y a
séries
pas
comme
public.
Ça
Je pense que c'est Ouais, je pense que c'est un problème.
Les gens
de,
adorent
de
voir
culture,
Mimimati
en fait, à la base.
Et, ouais, putain, mais ouais. Et même au niveau de l'image, tu sais, le grain de l'image, mm-hmm.
ouais, ouais.
tu sais, ça fait kiffer quand même quand tu regardes Misfits. Et tu regardes une série française, putain, mais tu pleures. C'est...
Culturellement, on est en retard vis-à-vis de ça.
Ah,
déjà, on le disait au début, c'est les premières séries vraiment science-fiction qui apparaissent là. Mm. Et culturellement, on est carrément à la bourre par rapport à eux, quoi. Donc, je veux dire, enfin, les British, c'est eux qui ont inventé Doctor Who, quoi. Donc. Mm. Voilà.
Parce que même au niveau, ouais, rien que le grain de l'image, quoi. Je sais pas, les mecs, ils se prennent la tête à acheter des caméras de professionnels qui valent je sais pas combien, qui rendent une image de merde. Ils ont juste à acheter un Canon, je sais pas lequel, tu sais. C'est sûrement ce que fait François Descrac. Et t'as une image qui tue. Enfin,
quand on
pas,
voit l'image ou
voilà.
la réalisation sur genre Camping Paradis, mais c'est immonde. Non, mais c'est vrai.
Mais voilà.
François, bon, l'histoire, je m'en fiche. On peut aimer, on aime. Enfin, moi, j'aime pas, mais je sais que mes parents aiment bien.
Oh,
mais honnêtement, les plans de
caméra
là-dessus.
Ouais, c'est pas. C'est pas le même public visé.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Pareil, moi, ça me prend la tête. Enfin bon, c'est comme dit Gouli, on est en retard. Quoi. Heureusement qu'il y a des mecs comme lui, comme François Descrac. Ou
bah, même
Astier,
Raphaël Descrac qui réalise aussi. Même, mais... Je crois qu'il y a la sœur de François et de Raphaël aussi, un truc comme ça, qui a commencé à réaliser. De toute façon, c'est des grands malades. Ouais, je crois vraiment.
Cette famille, ouais.
Mais
bah,
puis,
très bien.
Bah justement, les mecs comme aussi, comme. Non, c'est... les mecs qui sont derrière Golden Moustache,
ouais.
franchement, ils font des
c'est
trucs vraiment
cool,
sympas
ouais.
aussi. C'est...
Ouais, ouais.
Ça va se développer en. Enfin, ça
oui,
va se développer.
Et puis, le public français s'ouvre beaucoup plus, hein, vraiment. Moi, je vois le nombre de personnes qui commencent à regarder les séries américaines ou anglaises comme Doctor Who et ça, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Quand j'en parle maintenant dans mon école, il y en a qui me répondent. Enfin, alors qu'avant, c'était tu regardes des séries, c'est quoi? Ouais, mais vraiment.
Ah ouais
et ça a commencé, moi, vraiment, avec Game of Thrones quasiment.
Ouais, moi aussi.
Et un petit peu How I Met Your Mother, c'est là où ça a commencé, enfin ma génération en tout cas a commencé à regarder avec ça quoi.
D'accord. Ouais, moi, j'avais, enfin, moi, je me suis intéressé aux séries, c'était plus avec 24 heures chrono. La première saison, elle m'a retourné.
Parce que moi, je vois mes parents, ils ont 45 ans environ, ils détestent ces séries. Pour eux, c'est horrible.
Ah, ils ont mon âge.
Je pense vis-à-vis de ça, il y a pas mal de... Je pense vis-à-vis de ça, il y a pas mal de séries récentes qui ont amené les gens à regarder plus de séries et être même limite la limite du c'est du chronophage quoi de regarder que ça et de ne plus regarder que ça. Du genre ça a commencé pas mal avec Lost, les gens sont intéressés à cette Lost, série et exact, du coup c'est parti total en live sur toutes les séries à droite
Desperate
à gauche.
Housewives.
Non mais il y a des bonnes meufs.
Ah quel horreur.
Ah, j'aimais bien moi. Franchement, non, sérieux, c'était cool.
Plus ça allait, plus c'était.
Oui, ça c'est, ouais, ça s'est fatigué.
Quand
t'avais
deux serial killers, trois prises d'otages et quatre incendies dans chaque saison, tu te posais des questions.
Brivante de camp.
Fais-moi le ménage.
Mais c'est ça, c'est la femme parfaite.
Après, il y a les robots. Hein.
Je rigole, Maud, hein, je rigole.
Pas de
bon, on va passer à la suite quand même, parce que mine de rien, le temps tourne.
Oui, bien sûr.
Ça va être qui cette fois-ci?
Bah c'est moi.
C'est toi.
Oui, alors moi, je vais vous parler des X-Men. Alors, plus précisément d'un story arc dans les X-Men, parce que vous le savez les amis, les X-Men c'est carrément le gros merdier niveau
c'est
temporel, et pour
bien
se retrouver dans les séries, c'est la même merde. Alors une fois, c'est très marrant, parce que je me rappelle, il y a une année, il y avait l'excellent magazine Comic Box qui avait essayé de mettre sur un poster la chronologie définitive des X-Men. Il s'est avéré que c'était juste
impossible.
Tellement c'est le merdier. Donc je me suis dit, moi ça fait très longtemps que j'ai pas lu de X-Men. Je m'étais carrément arrêté parce que chaque fois je revenais et je comprenais plus rien de ce qui se passait. Je me suis dit, je vais attendre qu'il y ait un story arc qui recommence à peu près à zéro, ou une nouvelle histoire qui mette un peu les choses à plat. Et là, très récemment, Marvel, ils sont sur une... on va dire, un nouveau projet qui est le Marvel Ré-Evolution. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans vos kiosques, ça fait un espèce de grand bandeau rouge en bas des magazines et c'est marqué Marvel Ré-Evolution. Donc, ils ont commencé avec Hulk à refaire, qui s'appelle Indestructible Hulk. Et là, du coup, il y a aussi Join the Uncanny X-Men. Alors, Join the Uncanny X-Men, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire toujours des X-Men, dont vous connaissez un peu l'équipe en général. Sauf que récemment, dans les histoires, ça garde quand même quelques histoires des story arcs précédents. Hein. Donc, très récemment, dans les histoires, il y a eu deux groupes au sein des X-Men qui se sont formés. D'accord. Il y a eu une séparation. C'est-à-dire que Wolverine a pris un groupe sous son aile en tant que professeur. Donc, il est devenu le chef.
D'accord.
Et d'un autre côté, il y a aussi Cyclope qui a décidé de créer son propre groupe.
Ah oui, c'est les rebelles, lui, non? C'est ça?
Ah non, à la base, normalement, Cyclope, c'était le leader incontesté des X-Men. Ça a toujours été le chef des X-Men. Sauf qu'entre deux, il y a eu pas mal d'histoires, notamment avec le Phénix, avec Professeur Xavier, des gros délires. Et Cyclope a un peu pété un câble. Et il est devenu complètement dingue et il s'est mis en tête, alors je sais pas si vous connaissez un petit peu la série, vous voyez un peu la psychologie de Magneto toujours dans les X-Men, qui veut toujours mettre en avant l'homo supérieur et dire les mutants de toute façon devraient régner sur les humains, voilà. Cyclope est un petit peu fragilisé en ce moment et devient un peu dingo et décide de créer une espèce de révolution. Et il veut devenir le leader des nouveaux mutants, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des mutants, mais ils n'appartiennent pas à son groupe. Donc lui, il se dit, pour pas me les faire chourer par les autres, mes ennemis, ceux qui étaient ses amis avant, il décide de partir partout dans le monde pour aller recruter une équipe de mutants. Comme l'avait fait Charles Xavier au début avec lui. D'accord. Et comme tous ses amis, quoi. Et au final, on tombe sur cet épisode, le premier épisode, qui est scénarisé par Brian Michael Bendis, et dessiné par un dessinateur de folie que je surkiffe, qui s'appelle Chris Bacalo. Colorisé aussi par Tunstead, qui est juste formidable à la colorisation. De toute façon, il est souvent accompagné de Bacalo. Chris Bacalo, qui est un des meilleurs dessinateurs sur les X-Men, à mon avis. Ça fait très très longtemps qu'il dessine sur cette série. Il revient de temps à autre. Il a été un petit peu squeezé entre deux par Lenny Liu, qui était aussi un dessinateur formidable, mais qui était un petit peu plus réaliste. Et le côté cartoon de Chris Bacalo est vraiment très très intéressant. Enfin, moi, je pense que ça donne beaucoup de dynamisme. Alors du coup, ce New Uncanny X-Men raconte un petit peu cette histoire de Cyclope qui traverse un petit peu la planète pour pouvoir recruter des nouvelles recrues, justement. C'est très très sympa. Alors dès le début, dès le premier épisode, parce que là il n'y en a que 3 de sortie pour l'instant, dès le premier épisode, il y a tout de suite une histoire de traîtrise au sein de son groupe. Alors, je trouve que c'est un petit peu rapide quand même.
Ça commence rapide.
Il y a déjà de la bagarre dès le départ. Notamment, dans son groupe, il a Magneto aussi, qui est dans son groupe. D'accord. Et limite, il obéit à Cyclope.
D'accord.
Ce qui est un peu original, parce qu'on est toujours habitué à ce que Magneto soit un peu plus sur le dessus, quoi. Sauf que là, c'est un nouveau Magneto. Ils ont eu quelques problèmes précédemment. Alors, je vous conseille de lire, avant de lire Uncanny X-Men, New Uncanny X-Men, je vous conseille de lire All New X-Men, qui était un story arc qui était juste avant pour préparer justement à cette révolution Marvel, qui doit être en 7 tomes. C'est une histoire, je vous explique vite fait le pitch. Le fauve, oui. Je ne sais pas si vous voyez comme personnage,
oui. Ouais, ouais.
Le fauve est un petit peu en déprime et est en train de voir que Cyclope est un petit peu en train de vriller dans sa tête. Et du coup, il se dit, putain, faut que je trouve une solution pour lui démontrer qu'il est en train de faire de la merde. Il faut qu'on se sorte de là, sinon ça va devenir carrément un génocide entre mutants, quoi. Et il décide d'aller dans le passé, retourner voir la première équipe de X-Men. Alors déjà, quand on commence à retourner dans le passé, après ça fait des sacrées histoires de merde. Voilà. Donc je vous en dis pas plus parce qu'après ça se dévoile vachement là-dessus, mais c'est super intéressant. Les dessins sont mortels. Donc faut d'abord lire les premiers tomes All New X-Men.
Ça coûte combien un tome à peu près?
Alors moi je sais pas trop parce que c'est des scans. non je les vole pas. Je les vole pas, mais c'est des scans. Alors du coup je sais pas si Marvel ils font le même prix sur du. Sur du scan en ligne, tu vois. Donc comme je les achète pas, je suis pas abonné en fait.
Ouais.
Parce que j'aime pas trop aller chez le marchand de journaux, ils ont jamais ce que je veux, donc ça me fait chier. Voilà. Donc je pourrais pas dire, mais à mon avis ça doit tourner autour de 6 euros une histoire, quoi. Ça doit être un truc comme ça.
Ouais, bon ça va.
Mais faut attendre les versions françaises de toute façon, parce que ce qui est chiant avec les versions américaines, c'est vachement souple. C'est bien de lire la VO, je dis pas, mais c'est vachement souple. Et pour 19 pages, tu t'en tires avec 7 euros. Vaut mieux attendre d'avoir une version française avec quelques pages en plus et pour le même prix, quoi.
Ouais, d'accord.
C'est beaucoup plus intelligent. Donc voilà, je vous conseille de lire cette série. Vous allez voir une facette des X-Men un peu différente. Enfin, on a moins le côté vraiment super-héros direct, on est une équipe, on va attaquer les méchants, puis on rentre chez nous après, en fait. C'est plus du tout ça. Là, on est vachement barré dans une psychologie assez noire, en fait.
Une guerre de clans.
Carrément, parce que là, ça parle carrément de génocide, si rien n'est réglé, quoi.
D'accord.
Il y a toujours les sentinelles, il y a toujours ces personnages-là, sauf que tout a changé autour d'eux, ils sont obligés de tout refaire, quoi, voilà.
Et par contre, pour ceux qui ont jamais lu les X-Men ou qui connaissent pas du tout l'histoire des X-Men, est-ce que tu comprends quelque chose ou pas ?
Si tu lis le All New X-Men, comme j'ai dit avant, il y a moyen que tu comprennes plus, en fait.
D'accord.
Parce qu'ils mettent plus le truc en place. Que là, en fait, ils te mettent directement dans l'histoire.
D'accord.
Sans forcément te dire avant ce qui s'est passé avant, en fait.
Ouais, donc c'est un peu chaud, par contre.
Mais bon, les X-Men, c'est juste un enfer à lire. Il suffit de s'y jeter au moins une fois dedans, lire 3-4 numéros et tu suis, voilà.
Moi,
parce que si tu devais recommencer depuis le départ, tu serais dans la merde totale, quoi. Enfin, moi, j'ai lu quasiment tout des X-Men et franchement, je sais plus où j'en suis, même aujourd'hui, quoi. Donc, c'est vraiment compliqué, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et Hulk, il a recommencé quand exactement ?
Ça a recommencé là aussi,
oui.
En même temps.
D'accord.
En fait, ils sont tous lancés en même temps. C'est pas le Hulk qui va aux toilettes, hein, l'Arnouf. Hein. C'est,
oui,
c'est pas le même.
Oh, les privés de jokes.
I'm Hulking.
Donc voilà. Je sais pas si ça vous dit ou si ça vous parle. Après,
c'est
très compliqué de s'y mettre.
Hulk, ça m'intéresse bien, ouais.
Ouais, c'est vachement intéressant. Hulk, j'ai pas encore lu. Je me le mets de côté là parce que j'ai d'autres trucs à lire en ce moment, mais je voulais commencer parce que du coup le truc Révolution, ils vont le faire quasiment sur toutes les séries.
D'accord.
Ils le font aussi sur The Avengers.
Ils le font
aussi sur sur Spider-Man, je crois.
D'accord.
Qui est passé en V3, enfin
plein de nouvelles séries.
Ouais, mais enfin ils font comme ils ont toujours fait. Au bout d'un moment, ils disent les mecs, on remet les compteurs à zéro et on recommence tout.
C'est pas DC Comics qui avait fait ça? Un reboot
The New 52, ouais.
Ouais, ils avaient tout rebooté, en fait, toutes leurs séries.
Voilà, 52 séries qui ont été rebootées. Ouais.
Ah, quand
c'est
même.
C'est énorme.
Ouais, ouais. Bah, tout n'est pas super bon, hein, mais... Enfin, moi, j'avais commencé à relire Batman, qui est mortel. Enfin, juste terrible, parce que Greg Capullo au dessin, et puis... voilà, t'as juste à mettre ce mec derrière une série pour qu'il te fasse un putain de succès derrière, quoi, donc... Voilà, mais je vais pas vous parler de ces comics pendant des heures parce que sinon.
Bah, si,
on a
c'est
pas
intéressant
fini.
Quand même.
Non, mais DC Comics, ça mériterait un épisode à lui entier, je pense.
Ah ouais, ouais, c'est clair. Bah, les Marvel aussi, mais bon, ils font trop. En fait, Marvel, le problème, est... enfin, c'est mon sentiment. Et ils se font caca dessus, en fait, avec ça. Marvel, ils font tous au même endroit, ils mettent toutes les idées dans un seul pot, ils mélangent le tout et souvent ça donne n'importe quoi. Au lieu de rester sur un truc pertinent de A jusqu'à Z, comme savent le faire. DC Comics en fait.
D'accord.
Bah, ouais, voilà. Très bien. Bon bah plein de choses à écouter, à regarder, à lire. Moi je vais vous faire conseiller un petit truc rapidement. Hein, cette
ah ouais. Bah, fais-toi plaisir, t'es chez toi.
C'est un petit coup de cœur, c'est Plan B le podcast. Vous connaissez.
Mmh. Oui. De nom. Ouais, c'est pas génial. Mmh. Pas trop.
Donc. T'aimes pas trop Plan B? C'est vrai que c'est pas terrible.
Non.
Donc Plan B avec Caern, Fingin, Sidarcarus, Varou.
C'est plus Caern, hein. Il a
oui, c'est Karen.
Ouais, c'est Karen, voilà, c'est ça.
Ah bon, il a changé de sexe.
Ouais, ouais.
De sexe.
Et Osef, qui est aussi. Moi, rapidement, c'est un podcast côté bande de potes. Ça. Plein de sujets variés, il y a les MMORPG, Tolkien, il y a la planète Mars, et puis là ils ont sorti récemment, enfin avant-hier ou hier, un épisode spécial jeu de rôle où ils font une partie de jeu de rôle enregistrée, et franchement je me suis jamais autant marré en écoutant.
Ah ça, ça peut être bien ouais. Fun quand même. Ouais,
ça
carrément.
Part dans tous les sens, et
ça donne bien envie.
Caern a du mal à les tenir, et c'est vraiment génial.
Mais en fait,
écoutez Plan B, c'est vraiment.
D'après ce que j'ai compris, ils ont carrément fait un jeu en live quoi, c'est ça non?
Ouais, ouais, voilà.
D'accord.
Ouais, ouais. Donc
Et d'ailleurs, nous, on fait un big up à Sidartarus. On enregistre bientôt avec lui. On a vraiment hâte aussi.
C'est vrai?
Ouais, on va faire un parabidule avec lui. À mon avis, on va bien se marrer.
Ah, excellent.
Oh, bien, bien.
Excellent.
Puis rapidement, dans l'épisode, Varou a le rôle d'un guerrier nain avec une hache.
Ah, d'accord.
C'est énorme. Fingin, c'est un prêtre Barry le Blanc.
Excellent.
Voilà, plein de trucs comme ça. Donc, je le conseille. Voilà.
Merci.
Et donc, on va passer à la conclusion. Alors, bien, on se retrouve. On vous retrouve où déjà? Alors, on va commencer par ZQSD.
Bah, moi, comme d'habitude, sur le bidule.
Ah, le
excellent
bidule,
blog, hein, vraiment.
C'est, ouais, c'est.
Et
c'est
sur Twitter, @ZQSD. Z. Attends, ZEDKUESDE. De toute façon, tout est écrit sur le bidule, donc allez d'abord sur le bidule et après vous trouverez.
Oh, mais qui il est très bien ce petit. Voilà.
Il est bien
très, très sympa le bidule avec ZQSD d'ailleurs.
Ah, merci.
Non, c'est vrai, c'est sincère.
C'est très dur d'être invité, hein, je précise.
Oh.
Ah si, si, parce que tu sais plus qu'en parler en fait.
Ben moi, je suis passé avant toi. Enfin bref.
Et moi aussi.
Mot des boulis.
Alors, moi, vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur le bidule.
Bah, oui.
Vous pouvez me retrouver sur plein d'autres trucs, hein, sur Zigbox, sur boulinosaur.com, bien
reviens
sûr.
Reviens dans un quart d'heure.
Bah, non, à boulinosaur.com, c'est bien, ça retrouve tout. Donc, voilà. Sur Twitter, je suis @bouli_. Voilà.
Et toi, Maud?
C'est bien. Moi, dans le bidule aussi, sur mysweetcarpediem.com.
Ah ouais, ça
on
très,
on
ne
parle
bon
pas
ça.
Assez. Hein
ouais. Eh oh, les chaudasses, là, wouh.
Et sur Twitter, Mahudel.
Très bien.
Voilà.
Et on va terminer par l'Arnouf. Alors, on te retrouve aussi sur le bidule ou non?
Oui, dans l'épisode 6. bah, vous pouvez me retrouver sur podcastfrance.fr, l'annuaire du podcast francophone. et j'ai fait un podcast aussi qui s'appelle Dépêche Pod, dont le 13 sort
demain. Ouh, Dépêche Pod, ça tue.
Le premier podcast enregistré en voiture pour celui-là. D'ailleurs, le son, il va pas être terrible, ça résonne un peu. Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai enregistré, mais à l'écoute, j'ai une réverb, laisse tomber, quoi, c'est dégueulasse.
Faut enregistrer dans le coffre la prochaine fois.
Ouais, bah non, parce qu'en fait.
Il va tester tous les moyens de transport.
Mais oui, mais non, mais tu sais, j'avais trouvé un bon petit studio, j'étais peinard, c'était la salle de pause du taf. Et en fait, putain, c'est chiant, il y a tout le temps quelqu'un qui rentre en train d'enregistrer. Alors, mais tu fais quoi avec ton micro? Bah, j'enregistre un podcast.
Oh, il a rien con, celui-là, oh là là,
mais
il me fait marrer.
Mais c'est quoi un podcast? Oh, ta gueule, putain, je me casse. Et au final, je me retrouve dans la bagnole, quoi, voilà. Et donc, ouais, le son, il est sur le 13. Donc, mes excuses par avance pour ceux qui écoutent. Voilà. Sinon, sur Twitter, @France, tout attaché. Voilà, comme ça s'écrit.
Très bien. Et pour le podcast, vous pouvez le retrouver sur leséclaireurspodcast.com, sur iTunes, sur Podcast France, évidemment. Et donc, on se retrouve d'ici. On se retrouve la semaine prochaine pour un éclairage spécial Mindfuck. Et donc, d'ici là, cultivez-vous bien. Salut.
Ciao.
Salut.
Ciao. Wesh, mourir.
Et donc tu sais faire Flipper le dauphin, c'est ça?
Qu'est-ce qui se passe, Flipper? Est-ce que quelqu'un est tombé par terre par hasard?
Oh. Ah oui, d'accord, il est tombé dans le truc de poisson congelé. Ok, on va le sauver, viens avec moi.
Je veux un enregistrement.